Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant Fifi Gros avec Le Procès du Chien et Laetitia Dutch. Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Hugo.
Et bonjour.
Oui, alors je dis Festival Fifi Gros parce que la réalisatrice est venue pour une séance spéciale, même si le film était déjà sorti, une séance spéciale débat après le visionnage du film Le Procès du Chien. Et c'était dans le cadre du Festival Fifi Gros, le festival grolandais de Toulouse.
Voilà, c'est vrai que nous, en salle, il est sorti le 11 septembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est un film qui dure 1h25, donc il est assez court. C'est une très bonne comédie de Laetitia Dutch. Elle joue évidemment aussi dedans, Laetitia Dutch, que vous pouvez retrouver dans d'autres films, si vous connaissez Acide ou encore le roman de Jim qui est sorti vraiment très récemment.
Qui est excellent.
Voilà, vous avez aussi François Damien, connu quand même pour Dick Henneck ou encore pour être le père, je crois, dans la famille Bélier.
Oui, il est complice aussi.
Et vous avez aussi Jean-Pascal Zadi, qui a fait le film Tout simplement Noir en 2020, ou encore qui est actuellement dans la série à succès Netflix En place depuis 2023, qui en a sa deuxième saison. Du coup, le synopsis. Nous avons Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s'est faite une promesse. Sa prochaine affaire, elle gagne. Mais lorsque Dariush, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien.
C'est le premier long métrage de Laetitia Dutch et moi je trouve qu'il est très bien réussi. Franchement, elle a su mêler comédie et émotion.
Franchement, c'est vrai qu'il était exceptionnellement bien, j'ai beaucoup aimé. Il y avait de la comédie, mais par petites doses, par-ci, par-là. Voilà, le scénario il était franchement très très bon pour son premier film. Voilà, il était compréhensible, on a pu suivre de A à Z, il n'y avait pas de questions en suspens, d'incompréhension. Et voilà, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce film et j'ai hâte de voir ses prochaines productions.
Ouais, on sent cet amour de la nature et des animaux.
C'est ça, hein, voilà, le fait que ce chien, du début à la fin, soit là avec nous, qu'on apprenne un peu à le connaître, qu'on nous dise des informations qu'on peut ne pas connaître sur les animaux, comment ils peuvent ressentir des choses, etc. Avec le personnage de Jean-Pascal Zadi qui nous dit, etc., qui va garder les animaux, qui va s'en occuper, etc., pendant tout ce procès-là, qui va l'emmener, etc., parce qu'on va apporter la question et la cause du fait que est-ce qu'un animal, donc ce chien-là en question, est un être humain et peut être jugé comme une vraie personne ou comme un objet, comme une chose tout simplement.
J'ai eu la chance de rencontrer la réalisatrice donc, qui était venue pour la séance Fifi Gros avec l'un de mes collègues, Joël Attard, des Fiches de Monsieur Cinéma. On a fait l'interview en duo, je vous propose de l'écouter.
Alors dites-moi, votre film, il est bon, il y a beaucoup de choses qui avaient été écrites dessus. C'était le moment idéal pour le réaliser, parce que vous avez brassé tous les univers, la danse, le théâtre, la mise en scène, le doublage, le cinéma bien évidemment. C'était le moment idéal pour faire ce film-là?
Ouais, mais peut-être, mais je crois pas que ce soit une question de moment dans ma vie, mais enfin plutôt une question de moment. C'était le moment de raconter cette histoire, je crois. Mais pour ce qu'elle raconte et pour les gens, pour moi, ce serait d'y passer 4 ans, parce que j'ai été portée par des thèmes qui me sont chers, le féminisme, le rapport aux autres espèces, la domination en général, et aussi, j'avais quand même pas mal travaillé mon ton avant dans les pièces de théâtre, donc oui. Je pouvais passer au stade de changer de décor, que moi, j'ai pas l'habitude quand j'écris des pièces.
Ce que je disais, peut-être pour moi, c'était un processus de maturation quand on a tous ces éléments à sa portée et qu'on arrive à avoir le sujet qu'il faut. Vous aviez déjà en amont tous les ingrédients pour le traiter, c'est ça que je veux dire.
Bah ça j'en sais rien là.
Conjonction des deux.
Parce que je sais pas si par exemple une pièce c'est plus dur à faire qu'un film, c'est juste différent.
Oui, différent.
Donc je sais pas. Je sais pas parce que je vais peut-être refaire des pièces après, voyez.
Oui, mais c'est bien ça.
Ouais.
Votre film il est formidable parce qu'en fait on ne s'arrête pas à la comédie. Et je trouve que la comédie, ce qui est le plus important, c'est que c'est un curseur pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur des sujets sociétaux. Vous profitez de la notion de un peu flou qui a été au niveau de tout ce qui est juridique avec le chien. pour pouvoir pousser plusieurs curseurs sur la différence, sur l'acceptation, sur les phénomènes écologiques, etc. C'était, au niveau d'écriture, ça a dû être extrêmement précis. Vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire, ce film ?
J'ai mis 2 ans, mais en fait, dès qu'on décide, qu'on sait qu'un chien, au départ, c'est une chose, bon, en vrai, c'est un bien, mais bon, moi, je dis une chose, et tout d'un coup, on va décider que c'est plus une chose, et qu'on va faire son procès, en fait, ça touche naturellement à plein de thèmes. Ça touche naturellement au féminisme, à tous les gens qu'on déclasse et qui ont été des choses à un moment, parce que les femmes ont été des choses, les esclaves ont été des choses, légalement, quoi, des biens. Et donc, ça touche naturellement à tous les sujets. Il y a la logique du truc à suivre, en fait. Et du coup, on traite d'écologie, parce qu'un chien, comme on sait, c'est un ancien loup qui est devenu chien. Et du coup, il a été transformé par les hommes, il a été modelé par les hommes. On peut faire des parallèles avec les femmes, on peut faire des parallèles à comment on utilise les autres espèces actuellement, comment on détruit la planète. Enfin, on peut faire le parallèle entre plein de sujets super facilement, en fait. Mais parce que le procès, il donne de la place aussi pour argumenter. Donc il y a des avis pour, des avis contre. Ça touche à plein de choses. On a le temps de développer tous les sujets qu'on veut.
Avant tout, félicitations pour ce film. Parce que je trouve que c'est important de parler de la place du chien dans les familles ou autres. C'est vrai que on a tous un animal domestique, mais on ne sait pas comment se comporter avec lui. Et je trouve que votre film apporte ça, apporte cette lumière sur le comportement d'un animal et notre comportement à nous face à lui.
Merci.
Comment vous avez mis en place avec le chien, je suppose qu'il y a eu des comportementalistes sur place. Comment vous avez mis, parce que vous avez un super cadreur qui cadre parfaitement le chien, qui montre toutes ses expressions. Comment vous avez travaillé avec le chien Cody, je crois?
Alors, en fait, les dresseurs, ils ont pris le scénario, ils ont sorti toutes les actions du chien, il y en avait 100 dans l'histoire. Et ils les ont notés de facile à difficile, entre 1 et 5. Et à 5, il fallait que je réécrive pour le chien. Et à 1, c'était facile. Et entre 2, il fallait travailler, quoi. Et donc, on a travaillé comme ça, en faisant des répétitions. Il a beaucoup répété avec moi comme actrice aussi. Et puis avec les autres acteurs. Et en fait, le chien, il était hyper professionnel. Il travaillait très très bien et très très vite. Ce qu'il fallait, c'est lui mettre des conditions de travail où il était bien. Et du coup, on lui faisait des... Il avait son petit coin, il avait droit qu'à 1 heure ou 2 heures de travail par jour. Et entre-temps, il allait faire des balades avec ses copains et ses dresseurs. Enfin, il y avait tout était construit autour du chien, en fait.
Et c'est qu'un seul chien, en fait. Il n'y a pas d'autres chiens qui...
C'est un bâtard à 12 races, donc ça aurait été difficile. Non.
Oui, donc il y a eu des difficultés à travailler avec le chien. Oui, comme vous évoquiez le fait qu'il ait des instructions très précises, qu'il arrive à s'adapter, mais se mélanger avec tout un univers de cinéma avec des spots à droite, des techniciens, il n'a pas été perturbé ?
Non, pas du tout. Le seul truc, il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à faire, on était bien embêtés, c'était qu'il n'arrivait pas à hurler comme un loup. Et ça, je ne pouvais pas l'enlever de l'histoire parce que c'est central. Et du coup, on a cru pendant longtemps qu'on allait devoir le faire aux effets spéciaux. Et puis, une semaine avant, ils ont réussi à le déclencher. Donc voilà.
Vous avez mis en place aussi une très belle complicité entre vous et le jeune garçon qui passe d'un... Alors, au début, on se pose la question, mais quel est le but de ce que vous vouliez faire? Et en fait, on sent vraiment ce côté... humain, et ce côté de dire ce petit garçon qui veut pas s'approcher des humains, qui est maltraité, et il a cette voisine qui l'aide, qui lui permet, c'est son ange gardien, qui lui permet de vivre. Et pour vous, je trouve que ça apporte beaucoup au personnage, parce que ça lui donne une ligne de conduite et une façon de faire justice.
Moi, au départ, je voulais écrire ce rôle pour plusieurs choses. La première chose, c'est que je voulais qu'il y ait une relation entre une femme et un enfant qui ne soit pas maternelle et qui soit importante. Et puisqu'on le montre rarement, ça, quand même. Et puis aussi, je voulais parler des enfants battus, de ce qu'on entend à travers les murs, qu'on ne sait pas trop. Et cet enfant, je l'aimais beaucoup au casting parce que il fallait que je trouve un enfant qui soit une pousse sauvage, quoi, qui dégage un truc étrange, fort d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, il doit vivre des choses difficiles, mais il a quelque chose de particulièrement fort, cet enfant. Et c'est pour ça que j'aimais bien dans la première scène qu'il cite des gens qui avaient eu des problèmes de violence, qui avaient réussi dans la vie, enfin, qui se raccrochent à des modèles comme si pour lui tout n'est pas perdu, c'est pas simplement une victime, c'est quelqu'un, quoi.
C'est un cascadeur.
Oui, tout à fait, il vient vous voir. Il y a des tonalités extrêmement intéressantes dans votre film parce que justement vous évoquez les différences des uns et des autres et vous ne portez jamais de jugement. Et je trouve que c'est très important parce que ça permet justement aux spectateurs qui pourraient être enclins à vouloir prendre parti de manière un peu brutale à l'image de votre avocate, de l'autre, de l'avocate de la... qui, je ne sais plus comment elle s'appelle...
Rosine Buckenheimer, ouais.
Oui. Je veux dire, il y a, c'est un film d'amalgame, votre film.
C'est un film, je sais pas,
en tout cas... des regards différents, l'acceptation de regards différents.
Les personnages, en fait, j'aimais bien déjà qu'ils soient... Ils déjouent des préjugés au fur et à mesure du récit. Qu'on dise, ils ont l'air comme ça, ah mais ils sont comme ça, ah mais ils sont comme ça, en fait. Enfin, déjouer un peu les préjugés qu'on puisse avoir. Et c'est vrai qu'il y a... Ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'effectivement, il y a plein de points de vue différents. Et qui s'affrontent, qui sont d'accord, ça dégénère, mais... Il y a plein de regards différents. La femme d'extrême droite, c'est quand même celle qui sort les arguments féministes. Enfin voilà, ça me plaisait que ce soit, oui, que les personnages soient différents de ce qu'on pensait. Par exemple, le personnage d'Anne Dorval, qui est le plus caricatural quand même, mais volontairement, enfin, comme ces figures qu'on voit à la télé, pour moi, et qui, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas, que c'est un gag. En fait, c'est sérieux. Et c'était important pour moi qu'on la trouve, se demande bien ce qu'elle a foutre là, quoi, cette femme. Enfin, qu'on la trouve un peu caricaturale et que par contre elle peut devenir ultra violente en meeting. Enfin, ça m'intéressait par exemple, ça. Ouais.
C'est un peu la vie, hein. C'est-à-dire quand on voit certaines personnes, personnalités politiques s'exprimer, on a l'impression que vous n'avez pas caricaturé, justement. Hélas.
Ben oui, la réalité, elle caricature, oui.
Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Le montage est très important parce que je trouve que pour un premier film, vous avez dû avoir énormément d'images entre les folies entre guillemets raisonnables de François Damien, celles également de Jean-Paul Zadi. Peut-être celui qui était le plus facile à diriger, c'était le chien, en fait.
Non, le montage, en fait, le chien, c'était au contraire super important à traiter au montage parce que comme... on ne peut pas tout à fait contrôler ses états. Là, ce qu'on peut contrôler, c'est les placer à un certain moment pour qu'ils racontent quelque chose. Et donc, au contraire, on a beaucoup travaillé en finesse sur les expressions du chien pour les placer à certains moments, parce qu'en fait, il est toujours dans le même décor au tribunal. Du coup, à chaque fois qu'on tournait, on pouvait inverser, mettre une séquence dans une autre scène, si c'était possible. Après, il y avait beaucoup de matière au montage, c'est vrai. En plus que je joue dedans et que du coup j'interrompais pas les prises en les faisant en boucle, du coup pour dérusher, c'était vraiment difficile, mais et puis il y avait beaucoup de films différents qu'on aurait pu faire, mais oui, François, il faut choper ces petites phrases, donc faut être super attentive. Et puis non, Zadi, il est ultra constant, hyper facile à monter, au contraire.
Vous le retrouviez, François Damien?
Oui.
Vous aviez tourné Fourmi avec lui?
Oui.
Déjà encore une histoire d'animal. Non, je rigole.
Ah, parce que ouais.
C'est un...
Ouais, bah oui, je l'avais tellement adoré quand j'avais tourné avec lui. J'étais trop contente qu'il me dise oui pour ce film-là, ouais. C'est vrai que ces acteurs, je m'en sens proche parce que je trouve qu'ils arrivent à faire des choses subversives et qui font rigoler. L'humour, c'est vraiment un... Mais comme Caverne et Philippines et des gens comme ça, hein. L'humour, c'est une manière de parler d'autre chose, d'être un peu violent, ou un peu mettre l'autre mal à l'aise, ou le faire réfléchir. Enfin, y a toujours des couches, c'est vachement complexe comme couche. Donc j'étais contente qu'ils aiment le scénario, qu'ils aient envie de travailler avec moi, parce que je me reconnais dans ce qu'ils font, ça, c'est des exemples.
Est-ce que c'est pas difficile de passer devant et derrière la caméra? En fait, vous faisiez quoi? Vous tourniez la scène et hop, après, vous alliez au combo, vérifier si tout allait bien. Comment ça se passait?
Parfois, mais pas tout le temps. des fois on sentait. Et puis j'avais quelqu'un qui était dehors avec moi qui s'appelle Elsa Amiel, qui avec qui on discutait beaucoup quoi. D'accord. Mais on sent, c'est ça qui était cool quand on dirige de l'intérieur, c'est que on dirige la scène et on sent tous quand la scène prend ou pas quoi. En fait, on sait quand c'est bien. Et comme on se tournait souvent à deux caméras,
oui.
On vérifie les cadres avant, tu vois. Mais donc le fait d'avoir deux caméras, tout le monde doit être bon quoi. Donc tout le monde joue la scène. Et la réussite, c'est la scène. C'est pas un acteur qui fait ça à un moment. Ça, c'est pour après, pour le montage.
C'est un chef opérateur qu'on connaît bien, puisqu'il avait tourné tout sur Larzac.
Ah oui.
Qui a tourné dans la région. Vous parlez tout à l'heure dans le même temps. Ça a été aussi tourné dans la région.
Exactement, ouais. Bah, j'étais dedans.
D'Albi.
Oui, j'étais dedans.
Non, dans le Tarn, c'était, non.
À Albi. Moi, j'ai tourné à Albi pour eux, ouais, là-bas. Et oui, bah, puis moi, j'ai tourné avec les Larieux aussi, bon, oui. qui n'ont pas tourné dans le coin pour une fois, non, mais qui ont l'esprit du coin, quoi.
Et d'ailleurs, votre rôle est formidable dans les films de Frères Larieux. Je trouve que vous êtes pétillante. Il y a un côté irrévérencieux dans les films des Larieux, dans cette comédie Larieux, et que vous incarnez à merveille.
Ah, merci. Je suis quand même une belle connasse dedans, mais...
Non, pas du tout. Pas du tout, je trouve pas.
Un peu antipathique, mais bon.
Non, je trouve que vous avez une forme de poésie.
Oui, mais vous souvenez ce que je fais, quand même.
Oui, oh, c'est sûr.
Ah. Oui, non, mais c'est ça, c'est bien, il y a les deux, je veux dire.
Mais en fait, il y a les deux personnalités. Il y a le côté charmant de la femme en scène qui en fait, vit cette histoire d'amour avec Jim.
Ouais,
et puis,
ouais.
Il y a cette partie Amérique. Un peu plus délicate.
Bah, non, mais ça, on pourrait en débattre. En fait, même moi, j'en débat avec moi-même quand je revois le film, parce que selon les projections, je me vois mentir plus ou moins tôt.
Ah oui?
Je me vois en train de mentir, d'être déjà mal à l'aise, plus ou moins tôt. Ouais.
Alors que nous, à la découverte du film, on trouve que la manipulation, elle arrive après.
Ouais. Enfin, elle arrive quand elle n'est plus à l'écran, quoi.
Exactement.
Ouais, bah voilà. Revoyez le film et on en reparle parce que c'est intéressant.
Je l'ai revu régulièrement, hein, parce que j'ai écrit dessus pour les films de ce cinéma.
Ah, ouais. C'est bien. Ouais.
Et je voulais vous dire justement, vous avez l'art de changer d'univers. Quand on voit votre filmographie, il y a beaucoup de metteurs en scène différents et des tonalités différentes. Il y a beaucoup d'univers différents. Je trouve que c'est formidable aussi pour une comédienne de varier les auteurs. Vous avez besoin de ce challenge?
Moi, je
ou c'est le hasard?
Non, c'est pas le hasard, c'est des choix, mais c'est vraiment des choix de rencontre avec des gens. Donc c'est pas de ton. Et puis... de ce qu'ils racontent, quoi, des histoires et puis des gens.
Je voudrais revenir sur le film par rapport à une scène que je trouve magnifique dans la forêt, où avec un jeu de lumière, avec pareil ce cadrage, et puis aussi ces flamboyants avec le chien.
La bataille
aussi, oui.
D'accord.
Je trouve que alors ça commence avec une bataille. On voit voilà ils sont. Enfin, elle essaye de comprendre pourquoi il est comme ça et elle essaie de le faire changer, de lui donner un impact différent et lui il attaque, mais en même temps on sent petit à petit que ça change, même s'il attaque on sent une certaine retenue et je trouve ça très beau, je trouve ça comme une danse en fait.
Bon, en tout cas le truc qui était quand même génial, c'est de jouer à égalité avec un animal, parce que là je le dresse pas du tout là, enfin, je le chauffe un peu pour qu'il m'attaque, mais...
Ah bah oui.
Mais c'est lui qui est quand même vachement moteur. Ça, c'était quand même un truc génial à faire, et puis ça s'adoucit après. Et ouais, je trouvais ça super qu'il y ait une femme et un chien qui luttent, elle lui dit arrête avec les femmes. Je trouvais ça violent, je trouvais ça drôle. Puis et je le lance en l'air,
Oui, carrément, à un moment, waouh.
Mais après, c'est moitié comique, mais ouais, j'aime bien cette scène parce qu'on sait pas trop si elle est belle, violente, rigolote. Elle est entre plein de registres et j'aime bien quand c'est comme ça.
C'est ça, ça virevolte en fait. Vous passez de la valse au tango jusqu'à devenir un foxtrot où ça part dans tous les sens.
Oui, une alternance.
Pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très beau. Et cette lumière aussi, cette captation.
Elle est blanche, hein.
Ouais,
et souvent, la lumière dans ce film, elle est blanche. Mm. Très blanche quand on est dehors, quoi. Un peu genre...
Et un peu
comme les ciels de Paris. Je sais pas si vous avez vu en novembre-décembre. Oui. Ils sont blancs comme ça, en moins clair. Mais c'était bizarre. C'était un hasard. Mais c'était comme ça. C'est la saison, quoi. C'était février-mars. Mais effectivement, ça donne un côté où dedans, c'est très... plutôt chaleureux.
Oui.
Et dehors, c'est... Bam!
Ah ben ça part, c'est violent.
Comme dans la scène du plan séquence, là. Dans la rue,
oui.
Au téléphone, avec le coup de boule,
oui.
Et tout ça.
Bah alors, ça,
la lumière, elle est hyper blanche,
oui.
Aussi.
Oui. Il y a, je trouve qu'il y a une chose remarquable dans votre film, c'est la manière dont vous avez le chien qui est filmé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté puéril où on va trouver l'animal fidèle de l'humain, mais vous avez des plans simples où on le voit, on voit sa gueule, entre guillemets, et ça suffit. Je trouve ça apaisant. C'est-à-dire qu'on a une... Je trouve que la caméra, elle arrive à choper, en fait, les regards normaux d'un chien. Alors que souvent, on a une espèce de caricature du chien. Vous parliez souvent dans le dossier de presse de Beethoven, par exemple, où on a la tendance à vouloir en faire des tonnes. Et je trouve que c'est un film qui est très limpide à ce niveau-là.
Eh bien, en tout cas, en fait, on a vraiment observé les rushs du chien, mais ultra précisément, pour voir quelles expressions lui-même il dégageait ou il faisait. Et du coup, on les a placées à des endroits qui, moi, me racontaient une expression, mais qui vous racontent autre chose, d'ailleurs.
Oui, oui.
Parce qu'on n'est pas dans la tête du chien, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc, moi, je peux que projeter ma vision en large. Enfin, c'est pas des plans longs, mais quand même assez longs pour qu'il n'y ait pas une intention précise. Et du coup, ça vous laisse libre de l'interpréter comme vous voulez.
Oui, ce que je veux dire aussi, c'est que nous, il y a une mosaïque, on est comme un kaléidoscope. Il y a des images où on voit un chien qui est simplement en repos et qui est en train de dormir. Et donc, on est agréable. Il y a aussi le côté un peu plus bête d'origine avec la notion du loup. Et on voit toute cette mosaïque d'images. Et donc, c'est ça, un chien, c'est pas celui qu'on a dressé, c'est pas celui à l'état normalement naturel. C'est un mélange d'images, en fait.
En tout cas, ce que je vois, c'est...
Je le trouve.
Oui, super. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a enlevé beaucoup de trucs un peu abracadabrantesques que faisait le chien, parce qu'il sait faire plein de trucs, en fait, ce chien,
oui.
Qu'on a enlevé au montage. Et on s'est... Enfin, on en a laissé quelques-uns, les touches, mais ça, c'est pour l'histoire. Oui, on s'est concentré sur des choses plus petites, en fait.
Oui, vous avez enlevé le côté chien cirque, entre guillemets.
Un peu, ouais.
Ah oui, quand même, parce que ça, ce côté démonstratif, ça aurait été peut-être l'ennemi du film.
En tout cas, vous voyez, quand il dort, par exemple, quand il s'endort comme ça, moi, je lis un chien qui s'ennuie. Je lis une émotion presque humaine, mais vous n'êtes pas obligé de lire la même chose.
Oui, mais chacun a sa lecture.
Ouais, c'est ça.
Comment on peut considérer
que... Surtout sur un chien.
Bien sûr. Comme, par exemple, on peut considérer que la scène du tribunal où il s'amuse à jouer avec les pattes est, pour moi, surjouée. Mais on peut apprécier toutes les autres scènes, on le voit.
Oui, surjoué, je dirais pas que c'est surjoué.
Pour moi,
c'est surjoué.
Non, mais il joue.
Mais après, que vous trouvez que ce soit un peu trop absurde, ça, je comprends.
Pas absurde, mais juste un petit peu.
Un peu forcé.
Un peu forcé.
Mais c'est la situation, c'est pas le chien.
Bien sûr, c'est pas le chien. Hein.
Là, ça part un peu. C'est le truc le plus absurde du film. Et en même temps, vous savez que ça part d'un vrai truc, vous êtes au courant.
Oui, c'est une histoire. Oui.
Non, mais vous connaissez les touches.
Ah, vous Les touches, oui, mais je savais pas que c'était.
Touches pour chien.
Non, je sais pas.
Bah si, bien sûr, il y a plein de gens... Ah, ça, c'est un truc que vous pouvez regarder sur... c'est des touches, les chiens apprennent, balles, poulet, pipi...
Ils disent ce qu'ils veulent, en fait.
Oui, pour,
mais par contre, c'est un vrai entraînement.
Oui,
ça, c'est pas comme ça. Mais par contre, ça existe. Ouais.
Il y a une scène aussi, pour moi, c'est absurde et c'est réel et c'est assez hallucinant, c'est la scène d'éthique du comité d'éthique. Qui est assez farfelu, et tu te dis, mais c'est pas possible, ils peuvent pas sortir ça. Et puis il y a l'imam, le curé,
le producteur,
le bandit, il y a plein de personnes de religions différentes pour donner un avis. Il y a une personne qui est là qui peut s'exprimer et dire, oui, alors le chien il a quel âge? Ah oui, mais non. Enfin, je trouve que c'est vraiment aberrant et pourtant c'est réel.
C'est vrai que pour par exemple. Si on essaie pour la première fois de juger un chien, il faut comprendre si on juge comme un adulte, comme un enfant, comme un adolescent, comme quelqu'un qui a des problèmes de drogue, parce qu'on ne les juge pas pareil, tous ces gens-là, comme quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, on ne les juge pas de la même manière. Donc la question de se poser, la question de son âge, c'est une vraie question importante. Parce que, et après, c'est la question, oui, c'est un chien adulte, mais est-ce que c'est un humain adulte? Enfin, voilà, donc on suit la logique du procès.
Et est-ce qu'il a une âme?
Enfin, non, mais ça, c'est à part ça, c'est tiré de la machin truc de Valéloïde.
La controverse.
Voilà, merci. La controverse de Valéloïde, où il se questionne sur le fait que des indigènes ont une âme. Et Enfin, oui, ça m'avait interrogée. C'est quoi la différence? La conscience, on n'est pas là, mais on dit que la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est hyper difficile à décrire aussi. Enfin, en fait, il y a plein de questions qui s'ouvrent vraiment. Alors, bon, oui, c'est... Après, ce qui est marrant, c'est que le philosophe, pour expliquer son point de vue, il se met à la place du chien, il a les croquettes devant. Est-ce qu'il les prend, c'est juste un acte mécanique, ou est-ce que c'est, il va contre sa morale, il va pour son plaisir? Enfin,
Excuse-moi de vous couper, mais c'est une scène très très drôle. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, les gens parlaient de cette scène-là, disant que c'était cette réunion entre guillemets de philosophique et religieuse, c'était jouissif parce que c'était vraiment drôle de mettre les religions côte à côte qui en général n'y sont jamais.
Quoi. Ah oui, en plus, vous savez, l'imam et le rabbin, ils sont copains dans la vie en vrai.
Ah oui.
Non, c'est une scène très très drôle. Je trouve que c'est un film très abouti justement pour un premier film. Alors, vous avez eu aussi la joie d'aller à Cannes.
Oui.
Avec ce film-là, qu'est-ce que ça a procuré pour vous ce regard du monde entier sur votre film? Parce que un premier film, souvent, parfois, il est regardé uniquement dans un premier temps en France, mais là vous aviez une ouverture extraordinaire. Vous avez eu des retours incroyables sur ce film-là, de réalisateurs, de metteurs en scène, de simples membres de spectateurs.
Et je crois que le chien, il a obtenu la plume aussi. La palme canine.
Un Oscar ou un César.
Bah, en fait, c'était très impressionnant d'être là-bas aussi, juste même d'être choisi, parce que ça voulait dire qu'ils avaient lu la profondeur du film, ce qui n'était pas évident. Moi, je flippais parce que j'avais peur que les gens rient pas forcément. Enfin, comme c'est Cannes, je savais pas s'ils allaient trop rigoler, quoi. Et je dis, putain, s'ils rient pas, on est vraiment bien dans la merde. Parce que quand même, si on rit pas à ce film, on se fait chier, quoi. On croit qu'on est dans un film, dans une tête de malade et tout. Et ouais, ça a vraiment été un gros... Les gens étaient vraiment dedans. À tous les moments, de toutes les façons. On a une standing ovation et tout. Donc, c'était super. Et puis, effectivement, le chien, après, il a gagné le prix du meilleur acteur chien. Alors qu'il y avait un acteur, d'ailleurs, chien, qui jouait dans Black Dog, le film chinois, qui était magnifique aussi. Et là, ça nous avait eu 300 articles dans le monde entier. Le film, il a été vendu presque partout. Ceux qui accrochent le moins, et ça, c'est les Anglais et les Américains. Et c'est marrant, parce que c'est vraiment des grandes sources d'inspiration pour moi. Le travail d'Adam McKay, notamment. Et j'étais très déçue... que pour l'instant, le film... Et on n'a pas de distributeur en Angleterre, on en a aux États-Unis.
Ah oui, toujours pas, enfin,
non.
Bon, c'est bizarre. Parce que justement...
Je pense que le fait qu'on tue le chien, c'est un problème. Et le fait que ce soit vendu aussi peut-être comme une comédie, alors que ce n'est pas une comédie, c'est ce qu'ils appellent chez eux, ils ont un terme pour ça, ça s'appelle dramédie.
Oui, mais je trouve justement que c'est une réflexion très pertinente.
Oui, mais vous avez vu... Oui, c'est vrai, mais je crois qu'ils ont un tel truc avec les chiens aussi que de voir un chien mourir, c'est difficile. Après, Marley et moi l'a fait. Hein.
Ouais. Bon. Je voudrais parler de la musique aussi,
oui,
qui est très importante dans votre film et qui donne une couleur et une dimension sur les sentiments quand les voix se calment et ça prend une importance. Comment vous avez travaillé? Est-ce que le compositeur est venu sur le tournage? Est-ce qu'il avait lu le scénario? Comment ça s'est passé?
Alors, il y a plusieurs sortes de musique. Il y en a une qui était là depuis le début de l'écriture, qui est la musique du générique. La Savesque, après, elle est allée dans une série à la télé. Bon, bah tant pis, on s'est fait doubler que vous voulez. Je l'ai gardée quand même. Mais elle, je l'avais à l'écriture. Pour moi, c'était le ton du film, quand j'écrivais. Ensuite, non, le musicien, il est arrivé très tard. Je n'étais pas capable avant de trouver la bonne personne. Il est arrivé en octobre. Il a composé pas mal de choses, notamment tout ce qui est autour. Le thème du chien, je ne sais pas comment vous dire. À la fois, ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la. Et puis, du coup, on a fait des ritournelles autour de ça. On a décalé ce thème sur plein d'endroits du film. Et il y a quand même des endroits qu'on ne trouvait pas. C'était des endroits qui étaient plus satiriques. Plus satiriques, notamment la musique sur le comité éthique. La musique quand Avril fait des tests sur le chien. Enfin, la musique de la première scène au bar. Les scènes qui étaient un peu poussées, on avait du mal à trouver la musique. C'est mon monteur son qui est arrivé avec cette proposition de mettre de la musique classique, en fait. Parce qu'il m'a dit que ça va te donner de l'ampleur. Et en même temps, ça va donner tellement d'ampleur que ça va être drôle. Et donc, sur le, il a rejeté du Beethoven sur les doigts dans le cul. Il a ajouté du Mozart sur le comité éthique, du Rachmaninoff sur moi qui fait ça avec les chiens pour donner trop d'ampleur au truc. Et il manquait juste ma musique finale, en fait. Et c'est quand je travaille avec les Larieux, je rencontre Bertrand Belin, puis j'ai commencé à écouter sa musique. Puis j'écoute Oiseau, mais pas cette version-là, l'autre, qui est plus festif. Je me dis, ah, je pourrais la mettre au début. Je dis, non, ma musique de début, elle est bien, c'est pas grave, on s'en fout de cette série. Et puis, finalement, j'écoute la musique de... une autre version de cette chanson, parce que j'adorais. Moi, en plus, mon grand-père est ornithologue, donc si j'étais un oiseau, ça veut dire un truc pour moi. Et du coup, c'était parfait pour la fin.
Ouais. Ah oui, j'ai trouvé vraiment idéal pour la fin.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, franchement, c'est marrant, c'est que des rencontres, des hasards.
Oui, hein, mais... oui, mais c'est le hasard, c'est comme le loup, je dirais qu'il n'existe pas, le hasard.
Ah oui, c'est vrai.
Et je trouve que la chanson de Véronique Sanson aussi est
magnifique. Alors oui, celle-là, on a demandé les droits d'une autre chanson, c'est ça qui est rigolo, c'était Jolene. Parce que Dolly Parton, je croyais que le chien, il pouvait hurler vachement bien sur Dolly Parton, ça se répondait quand même. Et finalement, je dis, qu'est-ce qui fait ça, et Véronique Sanson? Ah ok, ce serait une chanson super mélancolique, on verrait JP chanter Véronique Sanson et le chien, ça pourrait être super beau, et ouais, ça et c'est venu avant le tournage. Ça,
ouais. C'est presque prophétique, parce que je tire ma révérence, oui, c'est presque aussi la conclusion du film.
Ouais. C'est la tristesse du film qui apparaît comme ça de temps en temps jusqu'à la fin, avec l'enfant dans cette scène. Ouais.
Je crois qu'on va être hélas obligé d'interrompre parce qu'on a...
Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Merci pour
26, j'ai encore quelques minutes.
Et je crois qu'à 30, vous avez une émission. 30,
oui, c'est ça, j'ai quelques 30. Minutes encore. J'ai une question, si vous voulez.
Vas-y, je t'écoute.
Non, ce n'est pas une question, c'est juste vous dire que j'ai deux chiens et j'ai trouvé des choses vraiment vraies, puisque quand ils mangent, on ne l'embête pas. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et souvent, je lui dis, la chienne est posée... c'est une berger belge, Rottweiler.
Ah, waouh!
Ouais. Et du coup, quand elle est posée, je lui dis, non, l'embête pas, va pas la voir. Ou quand elle dort. Et du coup, lui, il m'écoute pas trop, il a 6 ans. Du coup, il s'approche et on entend la chienne faire... Donc là, je le préviens, je lui dis, non, Tristan, tout ça. Et puis, des fois, il joue et il lui arrive de venir près et de toucher. Et donc, elle fait... d'un air de dire m'embête pas, et j'ai retrouvé ces situations, ces expressions dans le regard de Cody, et j'ai trouvé ça très beau et très fort, et franchement voilà, je voulais vous remercier.
C'est moi qui vous remercie.
Ce que j'ai même plus aussi, c'est le clin d'œil quelque part que moi j'ai ressenti, c'est que vous avez tourné je crois en Suisse, à Lausanne et puis à Vevey qui était la patrie d'un quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est Michel Legrand, mais qui était aussi celle de...
Ah bon, je savais pas.
Oui.
Ah, mais le décor, c'était hyper Michel Legrand.
Oui, mais il habitait Michel Legrand, il habitait bien Mathieu Demy.
Carrément, ouais.
Et Michel Legrand habitait à Vevey, et Chaplin habitait aussi à Vevey. Et c'est drôle de penser... Moi, j'ai fait un parallèle entre Le Dictateur de Chaplin et autre film, parce que en fait, il parle de sujets graves, et comme le monde dont il s'amuse, Hitler, vous savez, le dictateur, et il parle de choses graves avec légèreté. Je trouve que vous faites accepter beaucoup de différences par la légèreté du ton, qui est une vraie profondeur. En fait.
C'est gentil, merci beaucoup.
Ouais, c'est ce qu'elle dit, hein. J'aime beaucoup. Et puis, moi, je lui parle de cette scène, justement, où il y a ce... dans la forêt, que j'ai trouvé très belle et que j'estime être plusieurs danses accumulées avec cette lumière, avec cette façon de voir les choses, ce chien qui est vraiment mis en valeur et le fait de se dire que on est des maîtres et avant tout il faut écouter nos animaux et pas se dire tiens on fait ci, ils vont nous suivre. Moi, je pense que c'est hyper important de faire attention aux animaux et surtout à ce métier de comportementaliste des animaux, de chiens ou autres.
C'est vrai que moi, en ayant l'occasion d'en avoir 3, donc un chien et 2 chats, c'est vrai que aussi ça nous a permis de constater certaines choses par-ci par-là, de se dire qu'en fait, oui, entre guillemets, ils peuvent nous obéir. Oui, ce sont nos animaux de compagnie. Mais entre guillemets, ils font aussi ce qu'ils veulent, tout simplement. Ils font leur vie s'ils n'ont pas envie, entre guillemets, de nous écouter. Ils suivent leurs convictions, entre guillemets. C'est pas nos esclaves, tout simplement. C'est nos animaux de compagnie, certes. Mais ils ont une pensée, très clairement. Donc, il faut des fois les écouter, comme on peut le voir dans le cinéma, par-ci, par-là, où le chien a une intention, où il n'aime pas ci, où il n'aime pas ça, comme tout humain normal, tout simplement.
Et ne dit-on pas que quand on a un chat, on habite chez lui ?
C'est vrai, voilà. C'est vrai que moi, les deux chats vraiment vivent dans la maison, prennent le plus d'espace. Très clairement, ils marquent leur territoire par-ci, par-là, etc. Donc, j'avoue qu'avec deux chats, ils sont tout le temps à la maison, ils ne bougent pas, etc. Et voilà, le chien, c'est vrai que c'est beaucoup plus, plus dépendant. Par rapport à un chat où vraiment, entre guillemets, il peut vivre seul, etc. Alors que le chien, mais il faut s'en occuper, etc. C'est aussi des animaux totalement différents. Et on le voit dans le film que son maître s'en occupe tout le temps, il prend soin de lui, il est à son écoute. Et on voit aussi que le chien lui rend l'appareil quand des fois il peut aller à des moments donnés un peu. Qu'il est un peu moins dans son assiette, tout simplement.
Oui, puis le chien, on le sait, hein, c'est dérivé du loup. Et c'est l'homme qui l'a domestiqué. Donc c'est à nous de faire attention à ce qu'ils veulent, parce que c'est pas si facile que ça. Il y a toujours une nature sauvage. Et surtout quand ils dorment. Hein. Ne pas les embêter quand ils dorment.
Ou quand ils mangent.
Ça aussi, c'est important. Moi, je savais pas ces trucs-là et j'ai appris plein de choses.
Bah, ça dépend des chiens. C'est vrai que personnellement, le mien qui mange ou qui dorme, je peux le réveiller ou autre. Il va rien dire. Il est très gentil avec moi. Mais c'est vrai que comme on le voit dans ce film ou comme d'autres peut-être personnes qui ont des animaux chez eux vont le comprendre en mode on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Chaque race et chaque individu est différent. Il y a des réactions différentes, tout comme avec les chats ou encore d'autres animaux. Mais c'est vrai que c'est franchement beau à voir.
La fin porte à discussion, n'est-ce pas, Hugo ? On n'en parlera pas trop, on ne va pas spoiler, mais c'est vrai que la fin porte à discussion.
Voilà, parce que comme on a toujours un peu les mêmes discussions en groupe, moi je ne suis pas fan des fins avec une ouverture. Et Vanessa, elle aime bien. Et c'est vrai que c'était un autre film, je crois qu'on avait parlé d'Emmanuel aussi, où c'était un peu ce genre-là, où vraiment, ça dépend de quel type de personnalité vous êtes, si vous êtes plus Vanessa ou en mode l'ouverture, vous pouvez un peu envisager certaines fins, ou plus comme moi, où vous aimez bien qu'il y ait une fin droite, etc., que vous pouvez faire des théories, mais en mode que vous savez exactement la fin. Et c'est vrai que pour moi, la fin laisse un peu en suspens un peu trop de choses, on va dire. Il y a certains récaps sur les personnages clés, mais pour moi, il y a des personnages qui, pour moi, ont été importants tout au long du film et qu'au final, à la fin, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, tout simplement. Et c'est vrai que d'un côté, pour ceux qui aiment ça, c'est bien. Et c'est que pour moi, de mon côté, où j'aime bien savoir ce que les personnages sont devenus à la fin du film, d'avoir un petit récap, je ne l'ai pas eu, donc du coup, je suis légèrement déçu vis-à-vis de la fin.
Ouais. Alors, vous nous direz ce que vous en pensez, vous aussi, en commentaire.
Un chien qui a mordu trois fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées ! Faites votre boulot !
Bon écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes la seule limite à tes rêves.
Eh bien, il n'y en a pas !
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, qui fait du croc de dos.
Bon d'accord, on y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Écoutez-moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, Toupie, Toupie, Toupie.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
Ce chien ne mord que les femmes.
Ce chien, il est misogyne.
Cosmos, tu risques de mourir, tu comprends.
Faut que je rentre dans la peau du chien.
Un chien, quand il mord, c'est juste pour dire non. Ça, tu peux pas.
Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité ? On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.
C'est un chien.
Mais quand est-ce que j'arriverai à parler comme je suis, bordel de merde ?
C'était Chaud Devant, Festival Fifi Gros, avec Le Procès du Chien et Laetitia Dutch. Merci beaucoup à Laetitia pour l'interview. Merci au Festival Fifi Gros de nous avoir conviés. Et puis, bah, je vous propose d'aller au cinéma. Il est encore disponible dans les salles de cinéma.
Ne tardez pas à aller le voir quand même. Should I go? It's always tease, tease, tease.